Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1. Quelle joie de vous retrouver pour l'équipe est sauvage en public, oui, le vendredi. Public surexcité, mais pas autant que nos invités du jour, surtout Louis. C'est simple, quand je l'ai appelé pour lui demander s'il serait d'accord de participer à notre émission, il m'a dit...
Je suis sûr qu'on va passer une super soirée. Je suis déjà tout dur.
Bonjour, camarade.
C'est pas moi.
C'était vous avant.
Non, ça c'est pas moi, là c'est moi. Là.
Mercredi prochain, vous serez à l'affiche d'une belle équipe, une comédie qui va nous aider à surmonter le blues du mois de janvier. À vos côtés, une jeune femme ravissante que vous connaissez bien.
Non, je l'ai ramassée bourrée dans un bar hier soir. Elle dansait nue avec des lesbiennes.
Mais non, cadre, enfin, elle joue avec vous dans une belle équipe, c'est Sabrina Ouazani. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Sabrina. Une belle équipe comédie chorale dans laquelle Kat vous incarnez l'entraîneur d'une petite équipe de foot amateur qui, suite à une bagarre, va se voir suspendue jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, les joueurs qui la composent germent alors l'idée de remplacer tous les mecs de l'équipe par des filles. On a eu la chance de voir le film. Ma première question est simple. Moi qui ai un peu taquiné le cuir, comme on dit. Sabrina, vous êtes doublée lorsque vous êtes balle au pied ou vous jouez vraiment au foot comme ça?
Mais de quoi parlez-vous, voyons? Mais pourquoi vous gâchez la magie du cinéma?
Alors, je ne gâche pas la magie
je
du cinéma.
Pas.
Vous jouez quasiment comme Mbappé. On va en parler de cette comédie réjouissante, mais d'abord je vous explique le concept de notre émission. Vous voyez la Ligue des Champions ? Eh bien c'est la même chose, sans les champions. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent au service de votre culture G. Leur objectif, cette pathétique couronne en plastique, symbole déchirant de la mauvaise santé financière du média radio. À l'arbitrage, cas d'une femme que vous connaissez bien, puisqu'elle a inspiré un de vos personnages les plus légendaires, Jean-Michel Voitchiotte. C'est en effet en l'entendant reprendre Freddie Mercury que l'idée vous est venue.
Oui.
Cad, voici Eva Rock, alias Eva Voitchiotte, notre spécialiste média qui nous dira tout à l'heure ce qu'on regarde ce week-end à la télé sur les écrans. Eva, c'est ça?
Je sais pas, je réfléchis là deux secondes puis je vois si je reviens ou pas.
Mais d'abord, je vous présente nos deux premiers journalistes en compétition cet après-midi. À ma gauche, j'ose à peine annoncer sa présence, tant la dernière fois lorsqu'Eva avait annoncé son nom, il y avait eu un mouvement de foule dans le studio consécutif à l'hystérie qu'il suscite.
Nicolas Caro, sous vos applaudissements.
Ouais.
Oh bah non, mieux que ça.
Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour.
Oh, c'est encore mieux aujourd'hui, il n'y a que Cap qui applaudit. On a réussi à avoir un moment encore plus terrible que celui qu'on a diffusé.
Merci.
Une première. Vous êtes le monsieur littérature d'Europe 1, Nicolas, et aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du film, donc Une belle équipe, vous vous êtes penché sur les liens entre sport et littérature.
Et oui, parce que c'est incroyablement romanesque le sport, on le sait pour le cinéma, mais en littérature aussi. Moi, je ne suis pas particulièrement sportif, mais mon roman préféré, il parle de la course à pied.
C'est quoi?
C'est Courir, de Jean Echenoz.
D'accord, vous nous en parlez
tout à l'heure.
À ses côtés, un des mélomanes français les plus pointus. Le genre de type à pouvoir repérer que Chet Baker a joué une double croche au lieu d'une noire sur le fa dièse du troisième chorus de Out of Nowhere. On applaudit Fred Goati. Fred Goati, vous dirigez la prestigieuse revue Jazz Magazine, mais votre connaissance musicale va bien au-delà du jazz, puisqu'aujourd'hui vous allez nous permettre de nous la péter dans les dîners en faisant semblant de tout connaître de Jimmy Page.
Et oui, qu'est-ce qu'il faisait Jimmy Page avant Led Zeppelin? Il était musicien de studio. Alors, c'est quoi un musicien de studio? Restez branchés, je vais vous raconter.
C'est
ça.
Un musicien qui joue dans un studio.
Voilà.
Ben, c'est bon. Alors, merci Fred Goati. Le programme est donné, l'équipe est sauvage peut démarrer. Oui, Kat, vous aviez une question pour Eva.
Tu gardes ta jupe?
Non, elle, oui, elle préfère, ça l'arrange.
L'équipe est sauvage.
C'est donc, vous l'avez compris, le tonitruant tandem Cadmerade Sabrina Ouazani qui nous accompagne cet après-midi. Pourquoi tonitruant? Ben, simplement parce que Sabrina, quand on a un rire comme ça, c'est-à-dire un rire qui, en termes de dB, équivaut à un concert de klaxon un soir de Victoire des Bleus en Coupe du Monde, le mot tonitruant est le bon. C'est un rire qu'on a beaucoup entendu sur le tournage d'une belle équipe, ça, Cad.
Oh, oui, on l'a beaucoup entendu. Mais c'est un rire qui... En plus, moi, je sais comment la faire rire maintenant, ça y est. C'est une technique.
Alors...
J'imite Christophe Maé.
Et ça ressemble à quoi, Cadmerade qui imite
quand
Christophe...
ça tâche.
Attendez.
Quand ça tâche et quand ça passe.
Voilà. Un petit Christophe Maïté et on est parti. Et donc, mais sur le tournage, c'est très plaisant parce que l'ambiance était vraiment très très bonne. Voilà. Grâce notamment à Sabrina, mais aux autres filles aussi.
Et ça se ressent dans le film. On avait Isabelle Nanty avec nous l'autre jour qui nous disait,
oui,
on voit à l'écran quand sur le tournage d'un film, ça s'est bien passé.
Normalement.
Et là, on a l'impression vraiment que vous avez bien rigolé.
Et on ne le voit pas quand ça s'est mal passé, par contre.
Ah, ça vous pensez?
Ah bah oui, bah je crois.
Vous avez des exemples?
Ouais. Non. Si, Titanic. Moi, j'ai joué un des barman, là, quand j'étais au troisième étage, là, j'étais avec les gueux, moi. Tu m'as pas revu dans Titanic. Oh là, ça y est, Sabrina l'a perdu.
Sabrina, vous aviez fait un film précédemment avec Édouard Baird. Petite question, qui est le plus sympa, Édouard Baird ou Cadmérade?
Oh, les deux sont merveilleux.
Ouais. Oh, la vache.
Ah la
vache.
Ah, la question.
Une belle équipe sort mercredi prochain. Sabrina Ouazani et Cadmérade sont nos invités jusqu'à 18h. Europe 1. À suivre, débat musical houleux en perspective entre Fred Goetti et moi. Lui maintient que Jimmy Page est le plus grand guitariste du XXe siècle. De mon côté, j'affirme et j'affirmerai toujours que le plus grand guitariste du XXe siècle est en plateau avec nous ce soir. Oh,
Manitas de l'Habitas, le petit prince du flamenco. Oh,
bien sûr.
Ça va pas s'arrêter un jour.
Manitas de l'Habitas qui ne s'arrêtera jamais.
Heureusement.
Qui jouait au moins aussi bien que Jimmy Page et en plus sans les mains. Mais j'accepte qu'on en débatte. À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez l'équipe est sauvage du vendredi en public avec aujourd'hui Sabrina Ouazani et Cadmérade pour la sortie mercredi prochain d'une belle équipe.
Les adore.
C'est un métier, un chauffeur de salle, ce Cadmérade. Une belle équipe comédie feel good de ce début d'année et vous connaissez la célèbre citation. Le rire est au sérieux ce que le sommeil est à la vie, une exigence biologique.
Oscar Wilde.
Non, Carlos, l'album Tiroli Pimpon. Et puisque nous sommes entre mélomanes, je vous propose d'écouter notre premier concurrent du jour, directeur de Jazz Magazine, qui parfois s'encanaille un peu en écoutant du rock, quel déglingo. Fred Goetti, Jimmy Page vient d'avoir 76 ans. Et la question que je sens qu'il ne faut pas que je vous pose sous peine de me prendre une baigne, c'est... Rappelez-nous qui est Jimmy Page.
Jimmy Page, c'est un guitariste anglais, le deuxième plus grand guitariste de l'histoire, après Manitas.
De l'Habitas.
J'avais oublié, pardon. J'espère qu'il me pardonnera de lui souhaiter son anniversaire avec un jour de retard. C'était hier qu'il a célébré ses 76 ans.
Comme il écoute assez peu Europe 1, Jimmy, je pense qu'il vous en voudra pas.
Ça, c'est pas sûr. Hein,
c'est jamais. Vrai,
avec l'Internet, maintenant.
Bah sûr. Oui, oui.
Alors, il a 76 ans, notre ami Jimmy Page, et c'est le fondateur, comme chacun sait, d'un des plus grands groupes de rock des années 70, Led Zeppelin. Mais ce n'est pas de Led Zeppelin dont je voudrais vous parler aujourd'hui, mais du Jimmy Page des années 63-67, du Jimmy Page musicien de studio au service des autres, exclusivement au service des autres musiciens, et qui a enregistré un nombre incalculable de 45 tours à cette époque avec des chanteuses, des chanteurs et des groupes à la mode dont certains sont complètement oubliés. Alors, premier exemple, janvier 1965, Jimmy Page vient de s'acheter une pédale d'effet électronique tout à fait nouvelle, la Fuzzbox, et il est tout excité de pouvoir l'essayer avec les Manish Boys.
On dirait un mash-up de deux morceaux qui n'ont rien à voir.
Et parce qu'il est très moderne, très en avance sur son temps. Alors il y a quelque chose, c'est que vous n'avez peut-être pas reconnu le chanteur de ce groupe, les Manish Boys, il s'appelait David Jones, il avait 18 ans et on a fêté son anniversaire avant-hier, c'est David Bowie.
C'est David Bowie.
Lui,
il s'appelait
même.
David Jones, David Bowie.
Eh oui.
Ah bah j'apprends.
On en apprend tous les jours. Voilà. Alors un an plus tôt, en 1964, alors là Jimmy Page nous claque une intro carrément heavy metal avant l'heure pour une jeune chanteuse française. J'espère que vous allez la reconnaître.
Je n'attends plus personne.
On se gâte. Hardy.
Bravo.
Wow.
Françoise Hardy elle-même.
Monsieur a aussi l'oreille absolue.
La maman de Thomas Dutronc.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais.
Bravo. Bravo.
Hardy, oui.
Alors, en mars 66, le nouveau poulain de Lucien Maurice, patron d'Europe 1 à cette époque, exige, lui, d'aller à Londres pour enregistrer son tout premier 45 tours avec Jimmy Page et John Paul Jones, d'ailleurs, qui allait devenir le bassiste de Led Zeppelin. Je pense que vous connaissez cette intro.
Ah oui, quand même.
Eh bien, c'est Jimmy Page.
C'est lui aussi.
À la 12 cordes. Voilà. Alors,
Michel Palmaref, on a pas dit.
Oui, oui. Alors, on l'aura reconnu quand même, Eva. On a beau être des quiches.
Non, mais elle a raison.
Non,
c'est tellement évident que
on sait, puis
Michel Bonnareff, qui était le poulain de Lucien Maurice, ancien directeur de cette station. Alors, une autre pépite, une dernière pour la route, toujours avec Jimmy Page, qui est déterminé à cette époque-là à casser la baraque. Alors, ça tombait bien, puisque la chanson s'appelle « À tout casser », l'amour à tout casser. Waouh !
C'est Jimmy Page qui joue.
Eh oui,
derrière,
monsieur.
À la vache.
Avec
Johnny Hallyday.
On pourrait presque ne pas le nommer non plus, finalement.
Johnny Hallyday.
Alors, tout ça pour vous dire que si Jimmy Page n'avait pas passé ses nuits et ses jours dans les studios londoniens dans les années 60, eh bien, l'impact et le succès quasi immédiat de Led Zeppelin n'auraient certainement pas été aussi fort. Pardon. grand guitariste, grand compositeur et surtout grand architecte du son. Bon anniversaire, monsieur Jimmy Page.
Bon anniversaire, Jimmy Page. Et Cadmerade, vous n'êtes pas que Banitas de l'Habitas.
Oh, la transition.
Vous êtes un véritable musicien. D'ailleurs, vous allez bientôt remonter sur scène. Vous êtes en rodage, paraît-il. De quoi s'agit-il ?
Je rôde. Faut que j'en parle. Mais je ne sais pas encore de quoi il s'agit.
C'est vraiment le début du rodage.
C'est un vieux rêve, mais j'aime la comédie, j'aime faire rire, mais j'aime chanter, j'aime jouer de la musique. Et donc, je vais mixer tout ça, en fait. J'ai monté un groupe. Enfin, le spectacle s'appelle Cad on Stage. Oui, je sais.
C'est un peu mégalo.
À fond. Non, mais comme ça, éventuellement, si on lit sur la fiche CAD en stage, on pourrait croire que je suis en stage. Enfin,
c'est vrai,
il y a déjà une vanne, en fait.
Il y a déjà une vanne.
Sans faire exprès,
il y a une vanne. Spectacle musical.
Ma mère, elle parle pas l'anglais, elle va dire en stage, par exemple.
Ma mère aussi, ouais. Voilà, par exemple.
Donc, j'ai retrouvé les musiciens que j'avais pendant les Césars. J'avais monté un groupe de musiciens et je les ai gardés, les 9. Donc, il y avait beaucoup de musiciens sur scène. Et en fait, on va passer entre des reprises de chansons que j'adore. Peut-être de Led Zepp, d'ailleurs, il y aura peut-être.
Ou de Deep Purple.
Je sais pas
par
sûr. Oui, de Deep Purple, sûrement. Et puis tout ça, on va dire, avec un peu d'histoire. J'ose pas dire des sketchs parce que c'est pas le mot.
Il y a quand même Mohamed Hamidi qui va travailler avec vous sur ça. Le réalisateur de
Nuit avec Mohamed Hamidi. Donc, forcément, ce sont des sketchs, mais j'aime pas le mot. C'est pas un stand-up, mais c'est une conversation avec le public, avec des belles chansons et des très bons musiciens.
Et si le public.
Et ça va jouer sa mère, je vous le dis, parce que ça va jouer.
C'est la base. On connaît votre niveau musical, CAD.
C'est très solide musicalement. Les autres trucs, je ne sais pas encore. C'est ça que je vais roder surtout.
Et pour donner envie à nos auditeurs d'y aller, un avant-goût.
Ça, c'est sympa. C'est très sympa.
Non, mais petit clin d'œil musical, vous apparaissez Cadmerade dans un clip de Ibrahim Malouf, Happy Face. Et il s'avère que c'est Ibrahim Malouf qui fait la musique de votre film, La Belle Équipe.
Mais tout est lié, vous avez vu, tout est lié.
C'est le grand karma du cinéma.
Et Ibrahim Malouf est venu, à mon premier rodage, notamment. Il est venu jouer sur une chanson de David Lee Roth, Just Gigolo, parce que c'est la version de David Lee Roth. Et c'est Ibrahim qui faisait la trompette à ce moment-là, avec mes cuivres. Non, ça le fait quand même.
C'est assez
classe.
Donc
je rôde. Je dis pas où encore, si je peux le dire ou pas.
Si, vous pouvez le dire.
Non, mais je fais deux dates, là, fin janvier, au backstage, à Montrouge. 12 euros. Ouais, je le dis quand même, parce que. Non, ça fait 12 balles. Je suis obligé de faire un petit billetterie, parce que, je vais peut-être vendre 2-3 t-shirts, des mugs. On va péter les plombs, là.
Pour arrondir le sein de moi.
Alors, c'est pas très grand, donc si à un moment donné, vous rentrez pas, m'en voulez pas.
Mais évidemment.
De toute façon, là, ça passe pas sur la radio, c'est sûr.
On vous en voudra pas.
Donc, le backstage à Montrouge, il y a un parking. On m'a dit, c'est important de dire qu'il y a un parking.
Toutes les infos, bien sûr.
Toutes les infos.
C'est 12 balles.
Sur le site cadonstage.fr. Cad on stage.
Ou en stage, comme vous voulez.
Comme vous voulez. À suivre, les amis. Après l'érotomanie, cette maladie qui consiste à se persuader que tout le monde en veut à notre corps, vous allez découvrir avec Nicolas Carreau la staromanie. Une maladie qui consiste à se persuader qu'on est une star alors qu'on est journaliste sur Europe 1. Pour aller dans le sens du malade, comme le préconise le docteur, je distribue toujours aux invités un petit trombinoscope avec la photo des journalistes. Mais parfois, certains invités, comme Isabelle Nanty, gaffent.
Vous êtes alors Nicolas Carreau.
C'est ça.
Parce que maintenant, j'ai ma fiche.
Vous m'aviez reconnu quand même, je suis une vedette.
Quand le sport inspire les écrivains, c'est la chronique que nous proposera Nicolas.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Ici, le vendredi, c'est Public en folie. Bienvenue dans l'équipe est sauvage, l'émission hybride à cheval sur l'humour et l'info, émission qui pousse l'éclectisme si loin qu'à côté de notre sommaire du jour, un épisode du Camoulox paraîtrait presque logique.
Je tag un mormon et je danse avec une boîte à gants.
Je crapote un Montrouge et je promène à Bee Gees.
J'échange ma sœur et je maquille Franck Michael.
Eh bien, je relève le défi. Aujourd'hui au programme de l'équipe est sauvage, Cadmerade en short, les secrets de Jimmy Page, la reine d'Angleterre qui rit jaune, excursion dans un château fort avec Derek, Oscar le robot breton anti-ophnie et dégustation de Chablis avec Sabrina, le corps de Laurie Tillman, le rire de Thierry Roland. Camoulox. Sabrina Ouazani.
Merde.
Le corps de Laurie Tillman.
C'est bon ça.
C'est bon.
Est-ce que vous faites partie, Sabrina, comme moi, de cette génération qui a grandi avec les sketchs de Cadet?
Mais bien évidemment. Mais qui est passé à côté de tous ces sketchs?
Je sais pas, les petits cons qui sont nés après nous, quoi. Tu vois, qui connaissaient déjà Cadet, genre grand acteur, machin, et pas les sketchs de comédie.
Mais je crois même pas. Je pense que les gens qui sont à peine plus âgés, parce que franchement, faut pas être si vieux que ça, ont l'intelligence de le transmettre à la plus jeune génération.
Moi, c'est ce que je fais tout le temps.
Bah,
Dès que je croise un jeune, je lui dis attends, assieds-toi.
Regarde.
Et je ne serai jamais pris au sérieux à cause de tout ça.
Non, alors justement.
J'aurais voulu être un acteur un peu comprend au sérieux, à qui on ouvre la porte, voilà, là, rien du tout. Ah, viens, quoi, vas-y, viens. Ah, Caboulox. Mais merde, putain, j'ai été nominé au Énergie. Au Emmy International Award, mon Dieu, nom de Dieu. Je suis allé à New York. J'ai été battu par Kenneth Branagh. Mais tout le monde s'en fout. Ouais, Caboulox, hé, Monitas, t'as un médiateur au bout du gland. Non, je suis acteur, écoutez-moi. Bon appétit, messieurs, vos ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà votre façon de servir. Serviteur qui payait la maison. Ça, c'est de l'acteur. C'est pas je joue pas avec ma bite, putain.
Bon, Cad,
vous
avez répondu à la question que j'allais vous poser sur est-ce que vous assumiez cet héritage ou est-ce que vous gardez de la tendresse pour ces sketchs. Vous en blaguez aujourd'hui parce que vous avez fait Baron Noir. Vous êtes un acteur complètement reconnu. Est-ce que maintenant, vous pouvez vous autoriser de regarder ces sketchs en vous disant que c'était le bon
j'adore.
Temps
mais oui, vous savez, je continue d'appeler Olivier.
C'est vrai.
Je peux vous faire une confidence. Hier, je l'ai appelé. Je dis, j'ai une idée de sketch. Non. Mais pourquoi? Je dis, pour comédie. On ne sait jamais. Et je voulais que je vous raconte le sketch ou pas?
Ah oui.
Ça, alors j'ai honte un peu, mais j'ai eu une idée parce que j'ai vu hier un truc sur YouTube. Il y avait un type, vous savez, ces types qui essaient de rentrer dans des caisses toutes petites comme ça, ils ont des tenues super, tu vois. Et tiens, un type un peu qui se contorsionne, vous voyez, il rentre une jambe d'abord, mais la caisse elle est microscopique et il rentre comme ça, il finit par rentrer. Et moi j'ai imaginé un script, j'ai appelé Olivier, je dis écoute, t'imagines le gars, le même gars, il se prépare, il prend du temps, tu vois, il rentre comme ça, il rentre la jambe et il fait. Ah non, j'entre pas. C'est tout. Non, j'entre pas. Voilà. Ça m'a fait rire, je vous assure. J'ai appelé Olivier, il était mort de rire.
Bah vous savez, ça peut continue, être aussi un pitch de film, hein. Ça peut être le démarrage d'un film.
Mais ça me faisait rire, le mec qui dit, non, je rentre pas.
C'est excellent. Dieu, que le tournage a dû être sinistre avec des personnalités aussi effacées et sombres que Cadmerade et Sabrina Ouazani. Une belle équipe sort mercredi prochain. Cadmerade et Sabrina Ouazani sont nos invités cet après-midi.
Europe 1.
À suivre, mon cher Cad, vous aimez la langue française, votre filmographie le prouve.
Nous croyons que vous sachiez des choses, Graham. Avec ce que vous vouliez, moi j'y suis pas été.
Cet amour de la langue de Molière va être récompensé puisqu'à l'occasion de la sortie d'une belle équipe, notre expert littérature Nicolas Carreau va tenter de dresser des ponts entre l'écriture et le sport. Un papier qui s'annonce à l'image de Nicolas.
Subtil mais pervers.
A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous êtes à la fois rieur, curieux et sadique. Vous avez trouvé votre programme de référence. L'équipe est sauvage, chaque après-midi, 2 heures d'une lutte fratricide entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se foutent sur la gueule au service de votre savoir, pendant qu'Eva Rock leur marche sur le dos en talons aiguilles de 12 en les fouettant avec des rameaux d'ortie. Le tout sous l'œil de Cadmerade qui m'adore.
Depuis que tu te drogues, je ne te reconnais plus.
Qui m'adorait. Sabrina Ouazani, elle, ne me connaissait pas avant, donc elle peut pas être déçue, c'est ça qui est bien. Vous êtes tous les deux à l'affiche d'une belle équipe, comédie qui sort mercredi prochain et qu'avec Eva, on a beaucoup aimé. Et on le dit quand on aime Eva. Hein, c'est très feel good comme film.
Oui, et puis surtout, c'est que ça parle aussi des femmes, parce qu'on on parle de football, mais c'est pas simplement ça. C'est un film surtout sur la place des femmes dans la société. Et voilà, je trouve l'idée très maligne de passer par le sport pour parler de ce sujet.
Est-ce que les mecs seraient aussi macho que dans le film?
J'espère pas. Oui, c'est...
Au début, ils sont pas du tout contents. Donc, c'est des mecs qui jouent au foot.
C'est totalement une réalité. Oui, c'est des mecs qui jouent au foot et qui ont du mal à penser que des femmes vont valoir autant qu'eux sur un terrain.
Alors
et
que
puis...
franchement, ils sont pas très forts déjà. Ils sont déjà en dernière division.
Oui, exactement. C'est la dernière de la dernière. Là, ils sont foutus. Après une défaite, ça y est, ils disparaissent. Donc, effectivement, les femmes vont venir les remplacer comme en temps de guerre quand les femmes venaient remplacer les hommes qui étaient sur le champ de bataille. Eux allaient travailler à l'usine.
Bah oui, donc c'est logique.
Donc, c'est logique. Elles viennent prendre la place sur le terrain et ça ne plaît pas à tout le monde.
Est-ce que c'est possible juridiquement de substituer une équipe d'hommes par une équipe de femmes?
On va appeler tout de suite.
Le président de la Ligue.
Allô, Fédération Française de Football. Et Cadmerade, bienvenue chez les Ch'tis, le petit Nicolas, Baron Noir, et Manitas de l'Habitas. Oui. Ah, vous aimez bien Manitas de l'Habitas, mais Baron Noir, tout ça, vous connaissez? Vous connaissez pas. Manitas, vous voulez que je vous fasse Manitas? Attendez, ne quittez pas. Donc, est-ce que c'est possible?
Je ne sais pas. En tout cas, on a envie d'y croire.
En tout cas, il y a un vide là.
Un vide juridique.
Oui, je pense, puisque Mohamed Hamidi,
il a dû s'enseigner.
Oui, on va
lui faire confiance là-dessus. En tout cas, c'est un très bon film qu'on vous encourage à aller voir. Une belle équipe sort mercredi prochain. On continue d'en parler.
C'est vous qui êtes très bon.
Oui, non, je n'importe quoi, je vous envoie le compliment. Cad, en tant que coach du SPAC, vous le savez, la compétition n'attend pas. L'heure est venue d'écouter notre deuxième journaliste en compétition aujourd'hui. Icône sexy pour Télérama, qui lui a déjà distribué en tout 9 T. D'autres avancent en revanche qu'il pourrait s'agir d'un imposteur type Rocancourt qui, en lieu et place des 7 romans qu'il prétend lire chaque semaine, se serait en fait arrêté à Oui Oui à la neige avant d'entrer dans la carrière d'escroc. Sa manière d'esquiver la question piège que je lui ai posée mercredi me ferait plutôt pencher pour cette deuxième hypothèse. Écoutez-moi ce filou.
Et puis tout a été publié effectivement en 2010, in extenso, officiellement.
J'ai une petite question, on va voir si vous êtes vraiment spécialiste littéraire. Mémoire d'outre-tombe de Chateaubriand, c'est sorti combien de temps après sa mort?
Par contre, j'ai l'histoire de Kafka.
Nicolas Caro.
L'audio montage.
Quel roi de l'entour, il n'y a aucun montage là-dedans, j'ai juste mis de la musique derrière. Ce soir, alors qu'on parle d'un film sur le foot, vous avez choisi d'évoquer les liens entre sport et littérature.
Mais oui, il y en a beaucoup. Moi, je ne suis pas particulièrement fan de sport, mais comme je vous le disais, mon roman préféré...
Ça se voit d'ailleurs.
C'est vrai, moi, je suis affûté quand même. Mais bon.
Tu n'es pas affûté, tu es maigre, ça n'a rien à voir.
Si vous étiez de profil ou de face en fait.
Bon, je vous renvoie pas le compliment.
Ah, c'est facile.
C'est trop facile.
Je vous laisse travailler, pardon.
Mon roman préféré, c'est Courir de Jean Echenoz. C'est la biographie romancée d'Emil Zatopek, qui était très maigre aussi, puisque c'était un athlète tchèque, plus grand champion de course de fond des années 40-50, recordman du monde du 10 000 mètres. A priori, la course à pied, on risque de s'ennuyer. Bah, pas du tout avec Jean Echenoz. Il sait décrire l'effort, la ténacité, les vertus du sport comme personne. Et bizarrement, le marathon devient très très émouvant. Dans un autre style, mais sur le même sujet, il y a le célèbre livre d'Haruki Murakami, Autoportrait de l'auteur en coureur de fond. En fait, c'est son expérience personnelle. Murakami écrivait beaucoup, il était assis toute la journée et donc il a pris du poids. Et il a décidé de se mettre au footing juste pour maigrir un petit peu. Justement.
Et il en a fait un best-seller.
C'était très très dur pour lui. Mais oui, mais il en a fait un best-seller. Surtout. Pourquoi ? Parce qu'il a vécu des sensations. Il s'essoufflait, il souffrait énormément. Finalement, il est devenu complètement accro à ce sport. Il a voulu comprendre pourquoi et analyser tout ça. Et donc, il se met en scène et il raconte comment il n'essaie pas de battre les autres, mais se vaincre lui-même. C'est assez beau ça, c'est très romanesque. Il compare le travail de l'écrivain à celui du sportif. Comment développer la concentration et la persévérance, qui sont deux qualités indispensables dans les deux domaines. Alors pourquoi ça fonctionne bien, sport et littérature? Parce qu'il y a déjà ça, le dépassement de soi. Au fond, c'est le sujet de pratiquement de tous les romans. On trouve un héros au début du livre qui n'est pas du tout le même qu'à la fin du livre, parce que justement, il s'est dépassé, il est allé au fil des épreuves au-delà de lui-même, un peu comme dans le sport. C'est une affaire de sensations aussi. Pour un écrivain, c'est parfait. Il y a des torrents de sensations physiques mais aussi mentales à décrire, à travailler, à explorer, la douleur, l'envie de tout arrêter, puis la victoire ou la défaite d'ailleurs, c'est tout aussi romanesque. Et puis les romans se sont souvent emparés d'un sujet grave mais efficace encore du point de vue de l'intrigue, c'est la guerre. J'ai pas fait de statistiques précises, mais je dirais que 50% des écrits de l'histoire littéraire ont pour décor la guerre ou les guerres. Le sport, finalement, c'est la guerre d'aujourd'hui, sans mort, mais la guerre quand même, c'est heureusement ce qui a remplacé la guerre, les élans nationaux, il y a le patriotisme, l'affrontement simplement, mais aussi les petites lâchetés, la loyauté ou la déloyauté, on retrouve tout ça sur un terrain de foot par exemple. Et donc, il y en a plein des écrivains qui s'y sont mis, il y a Jean Giraudoux qui a écrit beaucoup sur le sport, qui a même fait du sport de haut niveau, il y a Antoine Blondin aussi, l'auteur d'Un Saint-Jean-Hiver, il était journaliste sportif, il a beaucoup écrit sur le sujet, mais pas des analyses ou des rapports, le sport avec l'œil de l'écrivain, du romancier, de la littérature. Éric Fotorino, bien sûr, ancien patron du Monde quand même, spécialiste du vélo, et il a publié de nombreux romans sur la question. Et puis Pierre-Louis Basse, ancien d'Europe 1, légende d'Europe 1 même, et romancier. Et son roman le plus célèbre, c'est Séville 82. Ah, voilà. Tout un livre sur un match, mais le match du siècle, France-Allemagne.
Avec Battiston,
dont vous parlez dans le film en plus.
Vous revenez sur cette scène dans le film. Ça vous travaille encore.
Bah, oui, la scène où on voit Platini qui accompagne le brancard.
C'est vrai, il lui tient la main.
En tenant la main,
C'est un bon moment, ça.
Un moment. Vous êtes sportifs tous les deux, pour de bon, dans la vie. Kad, vous avez fait du rugby.
Moins en moins, oui, mais bon.
Il paraît que vous n'étiez pas très fort en plaquage.
Non, mais j'avais un très bon coup de pied, comme on dit. J'étais un bon botteur. On m'appelait la botte impériale.
Monsieur.
Un jour, un journaliste dans un petit journal de province, mais on est
allé
sur Angers, soit Le Républicain, il s'appelait ce journal, qui existe toujours, il me semble. Et marqué la botte impériale. Alors, j'ai pensé longtemps que c'était un restaurant chinois, moi. Eh bien, c'était comme ça qu'on m'a appelé. Parce que j'avais un bon coup de pied. Non, non, mais j'étais un bon botteur.
Et vous, Sabrina ?
Incroyable. Et moi, effectivement, et ben, c'est fou, on s'est rendu compte avec 4 que j'avais aussi fait du rugby comme lui.
Incroyable.
Et effectivement, un petit peu de foot plus jeune. Mais
vous, quelque chose me dit à votre tempérament que vous étiez du genre à plaquer.
Exactement. Mais j'ai adoré ça, je faisais ça pour ça.
Pam. Ouais. Merci en tout cas, Nicolas Carreau, pour cette belle chronique. C'est toujours un bonheur de vous entendre parler littérature. Au fait, 4, votre écrivain préféré ?
Herbert Léonard.
Oh, moi aussi, c'est dingue. Les grands esprits, putain. Connexion. Chers auditeurs, ne bougez pas d'un millimètre, car dans quelques instants, la séquence déjà en temps normal la plus attendue de notre émission, à savoir le quiz qui oppose Évaroc aux invités, pourrait bien prendre des allures apocalyptiques, puisqu'un quiz entre Évaroc et Cadmerade, enfin, je vous laisse imaginer.
Bien, nous allons pouvoir commencer ce nouveau camoulox.
Je mets une jupe culotte et je dois un passant.
Vous avancez de 6 bulots, ma doudou joue du bignou.
Fais-moi du couscous, chérie.
Bien joué, vous marquez 8 merguez, porte tenue sous l'habitat Jojo.
L'idéal est de se mettre debout.
Je tente le sombrero malgache.
Saxophone.
Camoulox, bonne chance à tous et surtout aux auditeurs qui resteront avec nous.
Sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage en public le vendredi. 2 heures pour étoffer votre culture G sans pour autant vous péter un neurone. 2 heures aussi pour vous surprendre, voire déstabiliser nos invités aujourd'hui, Sabrina Ouazani et Cad Merad. Et justement, Cad, très très chaud.
Cad. Oh ta gueule. Pardon. Oh, mais lui,
il fait à la fois le public et l'invité. Cad Merad, t'as vu, Cad ? Je sens que la séquence qui suit va vous bouleverser.
Impossible.
Comment ?
Je suis un robot.
Mais non.
Titane, aluminium et haute cologne. Chaque centimètre carré de ma peau peut supporter jusqu'à 2 tonnes de poussée. Et j'ai les couillons de Kevlar, alors tu peux toujours y aller, mon petit bonhomme en mousse.
Non, mais c'était juste une formulation, Cad. Ah, on avait dit plus d'alcool pour les invités. Cad et Sabrina, on fête avec vous la sortie mercredi prochain d'une comédie, on l'a dit, très feel good, une belle équipe. J'aimerais à présent, mon cher Cad, que nous ouvrions l'album Souvenir. Ah, non, Cad est né en 64, sous De Gaulle. Voilà, mieux. Vous, Cad, la révélation pour le cinéma, vous l'avez eu vers quel âge ? Il paraît que c'était en 4e avec une prof d'espagnol, Madame Rosas, qui vous a fait jouer du Garcia Lorca. Et là, vous vous êtes rendu compte, dans le regard de vos petits camarades, que vous étiez fait pour ça.
Faut que je réponde là, c'est ça ? Ouais. Parce qu'on ne sait plus. Hein.
Ouais, là, vous
en tout cas, oui, je me suis retrouvé sur scène, en fait, tout d'un coup, dans le réfectoire du collège Jean Lursa à Ris-Orangis. Et il y avait les parents d'élèves, les élèves, et j'ai fait rire les gens, quoi. Et ça m'a plu, on ne pouvait pas savoir. Surtout que je n'étais pas un très, très bon élève, je ne savais pas trop où je pouvais aller. Et là, tout d'un coup, j'ai vu la lumière, comme on dit. J'ai vu où il fallait aller. Après, il fallait y aller.
Ouais.
Ça, c'est un autre problème.
Et ça a été un plus long chemin.
Ça a été un long chemin, mais franchement, là, c'est cette Madame Rosas qui doit sans doute peut-être écouter, qui de temps en temps m'envoie des petits mots, qui
c'est
à la retraite maintenant. Ouais, ouais.
Mais elle doit être tellement fière.
Bah, écoutez, j'en ai parlé au César, quand j'ai eu mon César. J'en parle tout le temps dès que je peux, parce que c'est vrai que c'est dans la vie comme ça d'un homme ou d'une femme, une personne peut presque changer un destin. Quoi.
Vous, Sabrina, comment vous êtes venue à ce métier ? C'était un casting, c'est votre mère qui vous a inscrit à un casting, et pas n'importe lequel, visiblement ?
Exactement, c'est ma maman qui, en emmenant ma petite sœur au parc de la Courneuve, a trouvé une affiche à l'arrêt du tramway. Et effectivement, c'était pour le casting de l'Esquive d'Abdelatif Kechiche.
Il faut dire quand même que ça tombe un peu super bien quand même.
Parce
que l'Esquive, avec le réalisateur qui ensuite va décrocher tous les prix, c'était
bien
vraiment inespéré.
Ouais, c'était fou. Et puis surtout, j'étais pas une seule seconde, ça me traversait l'esprit de me dire que je pouvais devenir un jour actrice. Et pourtant, effectivement, comme Cad, au moment où j'ai juste commencé à jouer, ce que j'ai ressenti dans le ventre, c'était complètement fou. J'ai compris que j'avais envie de faire ça. C'était ça que je voulais faire.
Une belle histoire. Cad Merad, Sabrina Ouazani, il y a comme
plombé.
Ça dans la vie. Des moments charnières. Celui qui vient en fait partie. C'est le moment de notre quiz. L'invité est normalement opposé à Eva Rock. Et aujourd'hui, j'avais envie d'un duel de femmes. Eva, vous jouez contre Sabrina. C'est un vrai faux sur les femmes, en hommage à votre film Une belle équipe. Mais vous avez toutes les deux droit au Joker Merad. En gros, Cad peut, si vous le souhaitez, répondre à votre place.
D'accord. Vous
ne connaissez pas la réponse. Eva Rock, on commence avec vous.
Ouais.
Selon une étude américaine, une femme dort mieux avec son chien qu'avec son mari.
Oh merde.
Vrai ou faux ?
Bon, alors là, moi, j'ai un peu de mal à...
à quoi, dormir avec un mec?
On sait.
C'est pas le sens de la question là. C'est juste une question technique.
J'imagine
on dort
avec
bien
un chien, tout ça.
Ça dépend.
Non mais dis-moi,
ça dépend
pas trop.
Chien quand même. Excuse-moi.
Ah oui. Ouais. Exactement. Si c'est un. Petit...
Avec un pitbull, t'es pas, ouais, voilà, pas sûr de bien dormir.
Et même avec un chihuahua.
T'es pas sereine.
Qu'est-ce qu'on dit, Cad? On dit.
On dit que c'est possible.
Oui, on dit que c'est possible. On dit que c'est possible.
Eh ben heureusement que Cad est là. C'est vrai. Ça a été laborieux, mais c'est vrai. L'étude a été menée en 2017. Elle portait sur 962 femmes. En grande majorité, les femmes ont déclaré que dormir avec un chien était beaucoup plus réparateur et qu'ils amenaient un sentiment de sécurité. Et en plus, ils perturbaient moins le sommeil que les hommes. Je ne sais pas trop en quoi on perturbe le sommeil. Mais bon.
C'est super.
Sabrina Ouazani, le pare-choc sur les voitures a été inventé par une femme. Vrai ou faux?
Oh non, mais...
Oh merde, faux.
Vous n'avez même pas consulté Cad.
C'est une femme, Brigitte Pare-choc, qui est... En 1928. Après, il y a eu Stéphanie Jante aussi qui a inventé les jantes parce que les femmes ont tendance à monter sur les trottoirs.
Bien sûr. Et Ginette Carter, ne
Ginette
l'oublions
Carter,
pas.
Alors, elle...
La réponse, vous avez raison, c'est faux. Par contre, une Américaine, Mary Anderson, a conçu un dispositif automatique de nettoyage des vitres de voitures de l'intérieur en 1903. Elle a inventé l'essuie-glace.
Ah,
Eva Rock, Sabrina Ouazani, le 26 décembre dernier, James McGraw, pour fêter 25 ans de mariage, a donné une preuve d'amour particulière à sa femme Kelly. Laquelle ? 1. Il s'est fait tatouer sur les fesses le visage de sa femme qui ronfle, la bouche ouverte. 2. Il lui a tricoté une écharpe faite en poils de son propre torse. Ou 3. Il a fait un portrait de sa femme et de ses 4 enfants avec 6000 grains de riz.
Oh là là, bah, je dirais la 3.
Ouais, moi aussi, c'est un peu cuculapraline.
Ouais,
c'est cuculapraline à mort, ouais. Mais 3 plutôt que se tatouer sur les fesses.
Ouais.
Eh bien, n'oubliez pas que nous sommes aux États-Unis, tout est possible. Un très beau tatouage de sa femme dormant, la bouche grande ouverte en ronflant. Elle avait promis de lui payer un tatouage du motif de son choix. Quand elle est venue payer, elle a vu le résultat sur la fesse de son mari. Elle a déclaré « C'est la pire photo qui existe de moi. Nos plaisanteries sont devenues incontrôlables.
»
Tu m'étonnes. Sabrina Ouazani, en 2013 à Bali, une compétition de surf féminin a vu des surfeuses russes surfer en talons aiguilles sur la planche. Vrai ou faux?
Des surfeuses, c'est où?
C'est à Bali.
Genre ça peut éventuellement m'aider, tu vois.
C'est important.
Ah bah, la ville, quelle ville? Il était quelle heure? Parce que c'est important.
Parce
là.
Que tenir sur des talons 12, faut le faire.
Mais sur une planche de surf.
Sur une planche de surf, c'est quoi, j'ai envie de dire vrai?
Quel feeling. Oui, c'est vrai. L'organisateur de la compétition avait déclaré qu'à Bali, les vagues étaient trop hautes pour les femmes et qu'il n'était pas favorable à leur présence à cet événement. Pour protester et lui donner tort, une douzaine de surfeuses russes ont surfé en talons aiguilles. Et
trop bien.
Eva Rock, vous connaissez le signe qui représente le féminin, un cercle surmonté d'une petite croix. Eh bien, en fait, ça symbolise un miroir. Vrai ou faux?
Non, c'est faux.
Mathieu,
elle a utilisé deux fois le joker.
Pour qui tu nous prends, Mathieu?
Je vous prends pour des tocards parce que c'est vrai. Ce signe représente Vénus, la divinité de l'amour, et plus précisément le miroir que Zeus lui a offert en cadeau de mariage, dans lequel était enfermé le sourire, le doux parler, le silence expressif et l'éloquence des yeux. Je sais pas ce qu'il fumait sous l'Antiquité, mais c'était de la bonne. Qui remporte ce quiz, les amis? C'est Sabrina Ouazani qui remporte le quiz. Une belle équipe. La nouvelle comédie de Mohamed Hamidi sort la semaine prochaine. Cad Merad et Sabrina Ouazani sont nos invités jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, si je vous dis, Cad, qu'avec notre correspondant en Bretagne, nous allons prendre la mer, qu'est-ce que ça vous inspire?
La mer n'est pas à prendre à la légère.
Oui, non.
Elle est à prendre tout court. Christophe Colomb.
Oui, non, mais...
La mer
oui.
est une femme oui. occulte que l'on regarde que par devant. Paul Éluard. Si tous les marins portaient des lunettes, il n'y aurait plus de vent. Jean-Claude Gittroy.
Oui, ah, on a hâte d'y être. C'est tellement beau. Alors ça c'était sûr. Alors ça c'est une perle. Ça c'est une pépite. Je me permets.
Rappelle même pas.
Oui, je me permets de le dire, c'est parce qu'autant les Jean-Michel tout ça on les connaît. Mais en cherchant et en cherchant, j'ai retrouvé ce
c'est quoi ça.
Alors tu te baladais avec Olivier Barou dans le clip, c'était dans un musée maritime. Vous étiez devant des vitrines de galions portugais et vous regardez, c'était les bonus de la traversée pour l'Atlantique.
Ah,
c'est magnifique.
Ah oui, parce qu'on a fait
voilà. Vous en avez fait des conneries.
Ah,
Il y a eu de la production.
Et c'est
heureusement.
Pas fini.
C'est que le début, puisque vous avez encore des nouvelles idées de sketch.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue. 2 heures d'informations rieuses ou de rire informant, selon le point de vue qu'on adopte. 2 heures également à la pointe des nouvelles technologies, comme va vous le prouver François Coulon, notre correspondant dans l'Ouest, qui nous parle aujourd'hui d'un robot anti-OFNI, c'est-à-dire anti-collision, qui va peut-être changer la vie des marins en les empêchant de heurter des objets ou des animaux, comme par exemple, Cad, des mouettes.
Une mouette glisse
oui.
sur cette vaguelette d'or. Un soleil de plomb gesticule au-dessus de mes mains. Les mailles du filet rentrent en crevetté. Winston Churchill.
Sacré Winston. Bonjour François Coulon.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous et bonne année.
Et bonne année à vous.
On dirait un titre de film, faut bien le dire. Vous allez nous parler d'Oscar, le traqueur d'OVNI.
Oui, alors on parle bien d'OVNI, hein, ces objets flottants non identifiés, rien à voir avec les OVNI qui, eux, volent beaucoup plus haut. Là, on a affaire à ce qui terrorise littéralement tous les navigateurs de course. Ce sont des troncs d'arbres, des conteneurs, des débris divers et même des mammifères marins, genre baleines entre deux eaux. Ils sont indétectables au radar et peuvent faire des dégâts considérables quand ils entrent en collision avec des voiliers. Alors, pour les repérer, Raphaël Biancal a inventé un robot prénommé Oscar.
Quand il n'y a pas de lune sur un bateau, la nuit, on voit rien. On navigue complètement à l'aveugle. Il y a beaucoup d'accidents avec des bateaux qui coulent. C'est comme jouer au dé. Oscar, c'est un système basé sur une caméra thermique permettant de voir de jour comme de nuit, qui détecte des objets devant le bateau, qui les suit, regarde s'il y a un risque de collision avec le bateau. S'il y a un risque de collision, le système lance une alarme. Et si le skipper ne réagit pas à l'alarme, une prise en main sur le pilote automatique pour éviter l'obstacle de manière totalement automatisée.
Mais alors, est-ce que Oscar a déjà été testé, François ?
Alors oui, à moins d'un an du départ du Vendée Globe, Oscar, doté de 3 gros yeux, a été placé en tête de mât d'une dizaine de voiliers de course et l'objectif est double. D'un côté, les skippers se familiarisent avec ce nouvel outil d'aide à la navigation et de l'autre, la société bretonne BSB Marine de Port-la-Forêt enrichit tous les jours la banque de données de son robot qui rencontre quotidiennement de nouveaux obstacles potentiels. Le plus dur pour lui, figurez-vous, c'est d'apprendre par exemple à distinguer une grosse vague ou un grand paquet d'algues d'un orque ou d'une palette.
Oui, parce que s'il donne l'alerte à chaque vague, ça va être un petit peu compliqué, François. Dernière question, François Coulon, le bien nommé, j'ai envie de dire, il est cher, Oscar ?
Humour. Alors, oui.
C'est très bon.
Oui, il est cher. Il est cher. Autour de 24 000 euros pour l'instant. Mais l'objectif est de descendre sous la barre des 10 000 euros. Dès cette année, ça devient beaucoup plus raisonnable pour éviter de se cracher contre une baleine, par exemple.
Merci beaucoup, François Coulon, pour cette innovation
bientôt,
Made in France. Europe 1. À l'heure de siffler la mi-temps de l'équipée sauvage et d'accueillir de nouveaux concurrents, j'aimerais l'espace d'un instant fendre la cuirasse. Vous dire l'émotion qui est la mienne d'accueillir aujourd'hui dans mon émission un si beau tandem de comédiens. Ils seront la semaine prochaine à l'affiche d'une belle équipe. Le nouveau film de Mohamed Abidi, Kadmerad et Sabrina Ouazzini sont ensemble cet après-midi dans le studio Merlin. Et d'ailleurs, allez voir comme ça, si complices, si proches, on se dit qu'ils devraient être ensemble tout court. C'est vrai, Kad, vous faites un beau couple avec Sabrina. Je pense que vous auriez dû l'épouser il y a 12 ans.
Mais à l'époque, elle avait 12 ans.
C'est vrai. J'avais pas réfléchi à ça, autant pour moi.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage en public continue. Public dont l'énergie, je dois l'avouer, me galvanise, voire me transcende, à tel point que si on avait le temps, je vous dirais...
Merci pour ça.
Wow. Mais on n'a pas le temps, car de vraies stars sont avec nous aujourd'hui. Ils seront mercredi prochain à l'affiche d'une belle équipe. Le nouveau film de Mohamed Hamidi, Kadmerad et Sabrina Ouazzani sont nos invités d'honneur cet après-midi. Et on est bien contents. On continue de parler de ce film, mais vous le savez, l'équipe est sauvage, c'est aussi une compétition. Chaque après-midi, 4 journalistes se battent pour cette somptueuse couronne qui, quoique dénigrée par certains invités comme Elie Semoun...
Elle est dégueulasse. Ah non, franchement, je me battrais pas pour un truc comme ça.
Elle continue néanmoins de fasciner nos journalistes. Je vous présente nos deux ultimes concurrents du jour. À ma gauche, jadis leader du championnat, il subit depuis quelques semaines le contre-coup de son changement de lunettes. Un faux pas optique qui, s'il a suscité un bond de sa popularité auprès des fans de Derrick, l'a en revanche largement décrédibilisé auprès des gens normaux qui y voient plutôt une résurgence incongru du style Francis Holm, de mauvais aloi par les temps qui courent en pleine affaire Matzneff. Voici Alain Sirou. Directeur de la revue Ciel et Espace, Alain, vous êtes le consultant scientifique d'Europe 1 et aujourd'hui, pour l'emporter dans l'équipée sauvage, vous êtes monté fin puisque vous nous parlez d'un nouveau type de tourisme assez révolutionnaire, le tourisme temporel.
Ah oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les scientifiques n'ont pas réussi, à mon avis, ils réussiront pas à fabriquer la machine à remonter le temps. Par contre, on est en train, quand je dis on, c'est-à-dire 450 institutions en Europe, de fabriquer le premier moteur de recherche du passé et de voyager dedans.
De voyager dedans avec un casque de réalité virtuelle.
Exactement, et je l'ai fait.
Et vous l'avez fait ?
Je me suis promené dans Paris au Moyen-Âge.
Et c'est vraiment bien fait.
C'est formidable, c'est génial, c'est un vrai futur.
à vos côtés, Alain, un journaliste, comment dire,
qui a une particularité. Il a une petite lune.
Non, essayons de rester chic, Alain. Essayons de rester chic, d'autant qu'Emmanuel Duteil, chef du service éco d'Europe 1, est encore convalescent. Le médecin du travail a diagnostiqué chez lui un stress post-traumatique consécutif à sa rencontre avec PEF.
Ouais, Emmanuel Duteil, on va lui mettre un petit 3. Il va pas nous faire chier. Hein.
Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour, bonne année.
Bonne année aussi. Alors, précision importante, vous êtes le chef du service économie d'Europe 1, mais aussi notre référent tête couronnée. Pour situer, c'est un peu comme si le même type dirigeait à la fois The Economist et Gala. Et ce soir, dans votre schizophrénie, je crois que c'est votre côté Stéphane Bern qui prend le dessus.
Oui, effectivement, on va parler de Meghan et Harry. Ils sont en train de...
Qu'est-ce qui leur arrive ?
Ah, ils sont en train de déprimer la reine d'Angleterre, ils sont en train d'énerver tous les Britanniques. Et il y a de quoi, parce qu'ils sont tout simplement très égoïstes.
Ah oui, vous prenez parti comme ça, vous dites ça.
Je défends la reine d'Angleterre, bien évidemment. Ah. Vous savez bien ma passion pour les femmes de tête.
Des voyages dans le temps avec Derek ou du rififi à Buckingham, quel sujet récoltera les suffrages ce soir ? Réponse juste avant 18h. Pour le moment, profitons de la présence parmi nous du sulfureux tandem Cadmerade Sabrina Ouazani. Sabrina, vous étiez fan de Cad avant de bosser avec lui. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure.
Oui.
Ah bon ? Oh, ça y est, il veut de la flatterie.
Ah ouais. Bon, totalement fan. Et d'ailleurs, j'avais hâte et j'étais en même temps hyper impressionnée de tourner avec lui dans une belle équipe. Et j'étais trop contente de découvrir aussi qu'humainement, c'était une merveilleuse personne.
Il y a deux effets qui se coulent avec Cad. C'est d'abord, on l'aime bien parce qu'il est fort et qu'il nous fait rire. Et puis deux, quand on a la chance comme
de
nous,
découvrir
de
sa générosité, voilà. Effectivement.
Ça y est, c'est ma fête.
Il faut le dire au public. Enfin, pour une fois que je dis pas c'est une vacherie. Qui est pour vous Cadmerade ? On est allé vous poser la question. Voici Cad. Non pas un micro-trottoir, toujours monté pour faire semblant que tout le monde kiffe l'invité. Non, voici notre micro-trottrash. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on a tout laissé. Et tu vas pas être déçu.
Oh merde !
C'est un acteur très comique, très comique. Très beau volume capillaire sur le côté.
Tout le monde se rappelle de son personnage du guitariste qui joue de la guitare avec la bite.
Il était avec... Comment il s'appelle l'autre là, le...
J'aime beaucoup Cadéo.
Cadmerade.
Il est hautain. Il est... Ouais, toi, il a l'air hyper sympa en plus. Non, il fait hyper sympathique.
Je l'avais vu en Bentley du côté d'Arcachon une fois.
Je pense que c'est un vrai acteur, mais qu'on l'a beaucoup trop mis dans des rôles de comique. Il est sympa, c'est un bon bonhomme.
Il a un charme voilà, dans les yeux, dans la démarche, voilà.
Il est surtout chauve.
Oui, il est assez chauve, c'est vrai.
Il doit être bon vivant.
Il peut faire autre chose. Il a une part d'ombre en lui qui peut faire autre chose.
Je pense que pour avoir autant de réussite derrière, il y a quelqu'un qui a de la poigne.
Qui joue de la guitare avec la bite.
il a une part d'ombre en lui, il pourrait faire autre chose. C'est vrai, ouais. Mais il y a certains qui sont restés encore à Cadéo. Justement, ce regard que les gens posent sur vous, Cad, dans la rue, c'est vrai que tout à l'heure, vous étiez sur la blague quand vous nous disiez on vous rappelle toujours Manitas de l'habitas. Mais il y a un truc qui peut vous agacer quand même, c'est que le César que vous l'avez eu pour un rôle dramatique. Et vous estimez que c'est dommage qu'il n'y ait pas de César pour des rôles comiques qui sont parfois plus difficiles en termes de performance pour un comédien qu'un rôle dramatique, finalement.
Oui, mais alors ça, c'est, on ressasse toujours la même chose. Mais Peter Sellers, par exemple, vous voyez, qui n'a jamais eu d'Oscar et qui est quand même l'acteur de La Panthère Rose et de The Party. Je ne sais pas si vous imaginez pas le travail que ça représente. Ou même, pour être plus français, de Louis de Funès. On n'imagine pas. Alors, on a toujours l'impression qu'un clown, c'est un art un peu mineur, alors que franchement, la comédie, le burlesque, c'est quelque chose qui se travaille autant que le dramatique ou l'intense ou ce que vous voulez. Donc après, bon... peut-être un jour, il y aura... Par exemple, aux États-Unis, ils font par exemple, les Golden Globes, il y a maintenant acteurs dramatiques, acteurs de comédie, etc. Ouais. Peut-être qu'on y viendra aussi. Parce que c'est vrai
comment
que...
ça se fait qu'on n'y soit pas encore venu ? Moi, ça me sidère, surtout. Enfin, au César, c'est pas très compliqué.
Il n'y avait pas de bus ou il n'y avait pas de métro. Et hop là ! Et pas de d'actualité.
Une vanne d'actu en plus.
Quand on n'est pas venu, c'est parce qu'il n'y avait pas de transport. Non, mais... Ça va viendre, Mathieu.
Ça va viendre. Vous les aimez cet après-midi sur Europe 1. Vous allez les adorer dans Une Belle Équipe, mercredi prochain en salle. Sabrina Ouazani et Cadmerade sont avec nous jusqu'à 18h. Europe 1. On évoquait à l'instant les performances d'acteurs. On rappelait celle de Cad dans Je vais bien, ne t'en fais pas, performance qui lui a valu un César et qui a injustement éclipsé une autre performance bouleversante, celle d'Emmanuel Duteil, pourtant inoubliable dans Je ne vais pas bien, fais-toi-en. Film poignant dans lequel un journaliste au bout du rouleau pleure sur l'épaule d'une collègue.
J'en ai marre de perdre.
Ah, mais...
Franchement, mais qu'est-ce que je peux faire pour gagner ? Là, j'ai fait le cul au travail, j'y arriverai jamais.
Il faut pas se traverser sa nature. Il faut d'abord que t'arrêtes de lire ton texte.
Mais là, je l'ai pas vraiment lu.
Il faut que tu parles à l'invité.
Mais parce que là, je voulais gagner le point de Mathieu. Je pensais que Mathieu, il allait voter pour moi.
2020. 2020 sera-t-elle l'année du rebond pour Emmanuel Duteil? Son enquête sur les derniers soubresauts de la famille royale britannique.
Ça n'a pas manqué de pas venir pendant plusieurs semaines.
Ça ne vous a pas manqué. Vous êtes bien reçu. Votre enquête sur les coulisses de la famille royale arrive.
Le canapé fait main en Italie. Découvrez tous nos magasins ouverts ce dimanche sur poltronesofa.com.
Poltrone Sofa, autentica qualità. Et voilà.
Autentica qualità, qualité authentique.
Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage en public le vendredi. Un public de guerriers, soulignons-le. Car pour arriver jusqu'au studio Merlin aujourd'hui avec les grèves de la RATP, une sélection darwinienne s'est opérée dans les couloirs du métro. Fatalement, un métro toutes les 3 heures, c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire celui qui, sur le quai, ose sortir sa batte de baseball.
Ça va bien les conneries maintenant.
Bravo mes champions. Pour vous remettre de vos émotions, je vous propose d'écouter notre troisième journaliste en compétition ce soir. Un journaliste qui nous ouvre les portes d'un monde habituellement fermé. Celui chatoyant des têtes couronnées. Avec lui, nous allons prendre la direction de Buckingham Palace. Si toutefois cela convient à Sir Cadmerad.
On va pas rester le cul vissé à la casse-bas, on va aller en discothèque. Et une soirée tuning.
Bien, Emmanuel Duteil, je crois que ça correspond globalement à un feu vert de Cadmerad. On vous écoute. Qu'est-ce qui se passe encore à Buckingham?
Alors, le pays est sous le choc. Vous en avez sûrement tous entendu parler.
Le Brexit.
Oh,
oui,
oui, le Brexit.
Oh, oui, j'espère que vous n'avez pas en parlé. En tout cas, moi, je suis saoulé là. C'est ça votre.
Ah, ben, non, non, non. La reine est tout simplement paniquée. Pourquoi? Parce que Harry et Meghan ont décidé de prendre leur indépendance. Les petits chatons, ils étaient sous pression au sein de la famille royale. Ils veulent vivre la moitié de l'année au Canada, notamment, puisque je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Meghan vient du Nord-Amérique. Hein. Elle est américaine, la princesse Meghan. Ils entendent même travailler. Oh là là, pour un membre de la famille royale, ça, tout ça est exceptionnel, puisqu'ils veulent être également un peu plus indépendants financièrement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, hein, ils sont financés par la couronne. Ils ont une dotation qui vient directement de la reine, qui représente 5% de leurs revenus. Le reste, c'est papa, le prince Charles, qui finance le reste de tout ça.
Est-ce que c'est une dotation qui leur permet de rouler en Bentley, comme certains de nos invités, par exemple? C'est important.
La reine a une très jolie collection de Bentley. Elle a également plusieurs Rolls-Royce, si jamais elle vous aimait. Mais, En tout cas, ce qui pose véritablement problème, là, c'est Meghan. On parle même de Mexit, pour bien évidemment faire une comparaison avec le Brexit. C'était à la une de toute la presse britannique ces derniers jours. Et pourquoi on parle de Mexit? Parce qu'on estime que c'est Meghan qui a eu cette volonté de vivre comme ça plus loin et de façon plus indépendante de la famille royale.
Mais pourquoi ça choque, Emmanuel?
Bien parce que le rôle de la monarchie est un rôle certes symbolique, mais c'est un rôle de représentation. Alors c'est vrai que c'est pas drôle d'aller déposer des fleurs sur une tombe, d'aller
inaugurer une fondation. D'accord, il y a pire quand même.
Bien évidemment qu'il y a pire. Et c'est un rôle extrêmement important également, par exemple, pour aller représenter la reine d'Angleterre à l'étranger. Et ça pose problème parce qu'il va falloir tout simplement les remplacer, ces missions-là. Il va bien falloir les faire. Et il n'y a pas beaucoup de ressources humaines aujourd'hui au sein de la famille royale, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait parlé du prince Andrew il y a quelques semaines.
Ah bah oui, le prince Andrew,
lui, il est retiré de la vie publique, oui, parce qu'il avait trouvé le moyen, lui, d'aller peut-être un peu fricoter avec certaines jeunes filles, avec le financier Jeffrey Epstein là, qui s'est suicidé. Donc il n'y a pas le prince Andrew, il n'y a plus le prince Harry. Et puis, on va dire, il n'y a pas grand monde de très glamour dans le reste de la famille
royale. Mais est-ce qu'il faut forcément que ce soit des gens glamour?
Pas obligatoirement glamour, mais enfin bon, pour faire rêver un peu, pour que la monarchie soit quand même bien incarnée, il faut au moins qu'on les connaisse. Je vous mets au défi de me citer les enfants du prince Édouard, par exemple.
Ah oui, ça, effectivement, vous pouvez toujours me mettre au défi, je ne vais pas répondre.
Voilà. Bon, donc du coup, il faut trouver un petit peu de ressources humaines, et ça pose quand même un très très gros problème du côté de la reine d'Angleterre. Et la reine, vraiment, est très énervée parce qu'elle n'a même pas été mise au courant. Et pourtant, Harry, c'est son petit-fils, elle l'apprécie énormément, elle semble l'avoir découvert comme ça, elle aussi, un peu au dernier moment. Et ce qui choque, du coup, c'est cette forme, comme je vous disais tout à l'heure, un peu d'égoïsme d'Harry et de Meghan, et un égoïsme qui va sûrement avoir quand même en plus quelques conséquences sur la famille royale.
Mais alors, quelles conséquences justement ça peut avoir?
Bon, pour le moment, la seule vraie conséquence visible, c'est chez Madame Tussaud. Si vous allez là à Londres ce week-end, si, ils y sont, mais ils les ont décalés.
Mais non,
non, si, ils se sont vengés.
Ils ont décalé un peu du reste de la famille britannique.
Contrairement à Cadmerad qui s'en fout complètement, mais il y a un truc qui m'intéresse dans cette histoire.
Non, mais attendez, car vous avez vu, hein, j'ai essayé de parler à l'invité, j'ai pas lu, et j'ai
été vous qui avez donné une bonne note.
Techniquement, c'était irréprochable.
J'ai fait une micro-sieste au moment, juste...
Je recommence.
Non, c'était bien.
Ça, à mon avis, non, c'est 8 sur 20.
Non, j'ai écouté, non, franchement. Non,
moi, j'ai une question, on disait de Meghan au début, on disait elle est un peu arriviste, elle veut être là pour se faire voir et tout ça. C'est plutôt, je trouve, finalement positif quelque part qu'elle souhaite se mettre en retrait, c'est presque étonnant.
Bien évidemment, mais ce qui est énormément reproché à Meghan, c'est qu'elle ne découvre pas les codes de la famille royale britannique.
D'accord,
quand elle est arrivée au sein de cette famille, elle savait savait le poids que ça allait représenter. Tout le monde savait ce qui avait pu arriver à Lady Di. Tout le monde savait la pression qui avait été mise sur la duchesse de Cambridge, la femme de William. Mmh. Donc, elle n'a pas découvert cela. Et finalement, en se mariant avec le prince Harry, logiquement, elle acceptait ce carcan. Et là, semble-t-il, elle l'a un petit peu poussé. Mais enfin, bon, il est bien gentil, lui aussi. S'il l'a fait, c'est qu'il est bien d'accord pour aller vivre au Canada.
Hein. C'est juste. Elle aurait dû tout simplement y réfléchir à deux fois. Think twice, comme on dit là-bas. Merci, Emmanuel Dutheil. Alain Siroux, à ce stade, un mot de vos rivaux dans la compétition.
Ce qu'on appelle des amateurs.
Merci pour eux.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Votre cocktail infotainment de l'après-midi continue. L'équipe est sauvage bat son plein, porté aujourd'hui par l'énergie d'un public certainement galvanisé par ma présence, mais aussi, peut-être, par celle de nos invités, Kadmerad et Sabrina Ouazani. Oui, c'est vrai que ça doit jouer aussi. Sabrina, comédienne bluffante que vous allez découvrir mercredi prochain dans Une belle équipe aux côtés de Cad. Oui, Sabrina.
Juste un truc. Vous dites pas aux autres que je sors de tôle.
Donc ça sera notre petit secret. Sabrina, une question me taraude. Vu que vous avez tourné avec Cad, est-ce qu'un soir, dans sa loge, un peu éméché, il vous a révélé ce qui allait se passer dans la saison 3 de Baron Noir? Vous avez eu peur.
J'aurais bien aimé. Parce que j'adore Baron Noir et j'adore Cad dedans, bah forcément. Mais non, vous verrez ce qui arrivera.
Oh, moi, je sais.
Vous savez. Et vous pouvez rien nous dire?
Non.
Aujourd'hui, on perd tous en moyenne 17 minutes chaque soir à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va pouvoir regarder sur Netflix. Heureusement, Dieu a créé Eva Rock. 17 minutes de gagner. Vous nous guidez dans cette jungle.
Oui, mais je voulais vous rendre hommage aussi, Kadmerad, à propos de Baron Noir, dont j'attends évidemment avec impatience sa saison 3. Je voulais vous conseiller un documentaire absolument remarquable qui est diffusé dimanche soir sur France 5 à 22h35. Vous pouvez évidemment le voir sur la plateforme de France Télé. C'est un documentaire qui est intitulé « Élysée, 9 femmes aux marges du palais » et qui s'interroge en fait sur le rôle des femmes des présidents de la République, alors depuis 1958, de tante Yvonne, hein, la femme du général de Gaulle, jusqu'à Brigitte Macron, même si le rôle de Brigitte Macron, lui, n'est que évoqué vaguement, en fait, dans le documentaire. Quel est le statut, en fait, de cette première dame de France? Une première dame qui n'a, en fait, aucun statut officiel, réellement, mais qui doit quand même se plier aux règles. Écoutez Carla Bruni-Sarkozy, avec un immense sourire, elle revient. Emmanuel Dutheil, c'est pour vous. Elle revient sur sa rencontre avec la reine d'Angleterre.
La reine aime beaucoup si l'on porte un chapeau, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un chapeau. La reine préfère si on a des gants, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des gants. La reine aime bien la révérence, mais vous n'êtes pas obligé de faire la révérence. La reine n'aime pas le noir ou le blanc, mais vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps en gris. Bon, alors moi, j'ai fait tout ce que voulait la reine.
Alors, c'est absolument...
Cette image, elle était magnifique. C'est l'une des plus belles révérences qui avait été faite.
Attendez, ça veut dire que vous êtes directeur du service économie d'Europe 1, mais aussi vous suivez toutes les révérences. Vous les souvenez, vous les classifiez.
Vous les... Elle avait un bibi extraordinaire.
Oui, oui. C'est une passion, les révérences pour vous, donc.
Bah, vous
ne faites pas mercredi prochain, je fais un dîner.
C'est pas facile à faire.
Non, tout ça pour vous dire, ça c'était juste un extrait un peu amusant, mais c'est absolument savoureux de découvrir en fait comment ces femmes, elles ont vécu de l'intérieur le mandat de leur mari. Claude Pompidou, elle en a profité pour s'intéresser à l'art contemporain et donc a créé aussi le musée Beaubourg. Anna Nemon Giscard d'Estaing, elle a soutenu la loi Veil, c'est ce qu'on apprend dans un des interviews qu'elle a accepté de donner, puis elle a multiplié les actions sociales. Elle raconte d'ailleurs qu'elle a été très impressionnée et surprise par le fait que les gens veuille la toucher quand elle était en déplacement avec son mari.
Ça me surprend.
C'était absolument incroyable. Cécilia Sarkozy revient sur les difficultés à protéger sa vie privée et à se protéger tout court. Ce que confirme Valérie Trier-Villar qui dit « Le soir de l'élection, j'ai compris que la vie privée n'existe plus, qu'on devient privé de vie. » Un documentaire qui évite surtout le côté people pour s'intéresser vraiment au rôle politique de la Première Dame de France et poser cette question. Est-ce qu'il faut ou non un statut officiel?
Voilà. Et vous répondez à cette question, Eva?
Ben, je ne sais pas. Non,
mais Emmanuel Macron avait voulu faire un au début
ils
de son quinquennat.
Il a eu d'autres soucis depuis.
Alors, il n'y a pas de monsieur, à Madame la Présidente dans Baron Noir.
Non, mais bon, la saison 3 au mois de février.
Bien sûr.
Le teasing.
Enfin, il a semi-révélé quelque chose.
Non.
C'était 17 minutes de gagner. Merci, Eva Rock.
Europe 1.
À suivre, comme Sabrina dans le film Une belle équipe, il porte un bracelet électronique. Était-ce une raison pour ne pas lui donner une deuxième chance? Comme Kat dans le film, j'ai décidé de l'aider à se réinsérer. Et aujourd'hui, je peux le dire, ça se passe très bien avec Alain Siroux qui s'insère parfaitement dans cette émission.
Un peu comme papa dans maman, quoi.
Oui, presque. Mais ces sujets sont toujours passionnants. Et si la réalité virtuelle nous permettait demain de visiter Paris en 1312?
Et on lui pèlera le jeu comme au
dépaysement garanti. A tout de suite.
C23. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage avec Kad Merad et Sabrina Ouazani, la grande compète des meilleurs journalistes d'Europe 1 entre à présent dans sa phase décisive. En public le vendredi, regardez-moi ce public, Kad, qu'est-ce que vous voyez ?
Une bande de vieilles dames.
Non, carrément ! Des fans remontés à bloc ! Demandez à Alain Siroux de vous prêter ses lunettes, bon Dieu ! Justement, l'heure est venue d'écouter notre ultime concurrent du jour, directeur de la revue Ciel et Espace. Pour lui, la science, c'est simple.
C'est chercher une aiguille dans une botte de foin, y découvrir la fille du fermier et l'épouser.
Alain Siroux, outre fantasmer sur les filles de fermier que vous pourriez potentiellement rencontrer dans des meules de foin, vous vous êtes penché aujourd'hui sur le tourisme de demain, un tourisme temporel. Concrètement, ça va ressembler à quoi ?
La meilleure façon de l'expliquer, c'est lorsque vous préparez vos vacances, Mathieu, vous décidez, alors on est au mois de janvier, vous allez partir en vacances en juillet ou en août, vous allez aller sur Internet pour chercher votre destination, vous allez cliquer
moi,
sur Google.
Moi, je vais chez Cad à Marseille, il m'a invité.
Ouais. Très bien, bah.
Moins cher.
Mais vous pouvez regarder à quoi ressemble sa maison, aller dans la rue où il habite, sur Street View, des choses comme ça. C'est-à-dire que vous allez chercher l'information directement sur Internet. Et la question qui s'est posée aux institutions scientifiques, c'est est-ce qu'on pourrait faire ça dans le passé ?
Pour chaque époque ?
Est-ce qu'on pourrait revenir dans le passé et fabriquer une machine virtuelle, en quelque sorte, qui permettrait d'en savoir autant sur le passé qu'on peut en savoir aujourd'hui sur notre époque, c'est-à-dire les big data ? Et en fait, c'est possible. Pourquoi c'est possible ? Parce que dans les bibliothèques, il y a des tas et des tas et des tas d'archives. Bon, vous avez des photos, vous avez des cartes, vous avez des tableaux, vous avez les actes notariés, vous avez des livres. C'est-à-dire, en tout, des centaines de kilomètres
on peut recréer
de
les
données
villes telles
qui
qu'elles
sont
étaient
à numériser. Et l'idée, c'est de fabriquer justement les big data du passé. Alors, c'est assez simple dans le principe. Vous prenez effectivement ces quantités d'informations astronomiques, vous les numérisez, donc vous fabriquez ces big data. Ensuite, vous croisez les données pour effectivement faire qu'on puisse comprendre qui habitait cet endroit, quel était son nom.
Mais non.
Quel était son cousin ? Quel était le petit commerce qui était à côté ?
Donc ce n'est pas une simulation, ce n'est pas fictif.
Ce n'est pas un jeu. C'est les informations du passé, comment on va les lier pour reconstituer finalement le plus fidèlement possible ce qui se passait dans le passé, mais pas seulement les lieux, mais aussi les gens, les familles, les liens.
Attendez, je comprends que ça soit techniquement possible, en revanche, c'est des moyens énormes pour arriver à ça.
Absolument, mais on peut le faire aujourd'hui, parce que vous savez que les big data, donc les ordinateurs, brassent déjà, c'est Google déjà, des milliards et des milliards de données, et l'idée c'est d'utiliser le passé pour le faire. Donc c'est de fabriquer un portail temporel, qui est une représentation synchronique de la ville, mais dans laquelle on pourrait mettre aussi des sons, dans lesquels on pourrait mettre aussi des odeurs, dans lesquels on pourrait, et c'est là où on trouve la deuxième ouverture, qui est que les techniques de l'intelligence artificielle aujourd'hui nous permettent de mettre sur des casques de réalité virtuelle ces données et d'aller visiter. Alors, on va dire Venise au XIVe siècle, Paris au Moyen-Âge, je l'ai fait pour une première représentation. Mais aussi vos villes de province, aller voir vos ancêtres, là où ils habitaient.
On pourrait rencontrer son ancêtre.
Par exemple, aller voir quel était son environnement. Alors, sur Paris, c'est extraordinaire parce que, attention, ce n'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire que les gens qui travaillent aujourd'hui là-dessus, c'est des sociétés comme Ubisoft, c'est le Louvre, c'est des grandes institutions. 475 organisations scientifiques en Europe travaillent actuellement sur le sujet pour reconstituer ça. On pourrait visiter des monuments qui n'existent plus. Prenez la place de la Bastille. Il y a des représentations sur les siècles passés. On pourrait remonter 1000 ans en arrière, pratiquement. Et là, je veux juste vous parler, parce que c'est embryonnaire pour l'instant, mais on peut se promener déjà dans Paris du Moyen-Âge. Et il y a une musicologue qui s'appelle Mylène Pardouen qui a travaillé sur les sons. Parce qu'à l'époque, il y avait des marchands, des bateliers, des artisans, des lavandières. Et en fait, l'idée, c'est de travailler aussi sur le son par rapport à ce qu'on connaît de la place des bâtiments. C'est-à-dire, comment ça sonne ? Écoutez le Paris. Alors là, on est en 1739, près de la place du Châtelet. Et vous voyez, vous pouvez vous promener dans ce Paris-là. Vous pouvez monter au sommet de Notre-Dame, voir Paris de l'époque. Et tout ça...
Ça, vous l'avez fait ?
Alors ça, je l'ai fait. Et ça, c'est extrêmement bluffant.
Mais on fait donc, ça où c'est payant
Non, pas du tout. Pour l'instant, Ubisoft ou un centre de gens qui travaillent des
oui, mais
des
c'est pas accessible encore au grand public.
Alors, ça commence,
si moi
ça
j'ai
commence.
Envie de le faire, je vais où le faire?
Alors pour l'instant, vous pouvez. Alors je ne sais pas, je peux pas répondre à cette question.
Non, non, mais. Un point en moins,
c'est un projet pour le moment. C'est en construction.
C'est
en
projet.
Il est en train de s'aborder votre
il
sujet.
Veut gagner, il veut
mais
gagner.
Mais vous pouvez. Alors, là, j'ai parlé des choses qui sont connues, mais vous pouvez aller à Lille, vous pouvez aller à Lyon, vous pouvez aller. En fait,
mais on ne peut pas, villes... puisque vous n'avez pas d'endroit où on peut le faire.
Non, mais les villes sont intéressées pour le faire, parce que justement, c'est une façon de les visiter autrement. Ah oui, et encore une fois, l'idée d'ouverture sur le passé est une idée géniale. C'est-à-dire, vous devenez des visiteurs temporels sans aller dans le passé. Mais encore une fois, c'est pas un jeu. Vous pouvez vraiment aller sur la trace de vos ancêtres et puis regarder à quoi ça ressemblait.
Bon,
et
alors,
ça, je
Alain,
ça très émouvant.
Moi, j'ai trouvé le sujet super, mais vous allez enquêter pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir le faire. J'ai envie d'essayer. Merci Alain Siroux pour ce voyage dans le temps qui ouvre des perspectives incroyables, puisque si je vous suis, ça signifie qu'Eva pourra voyager dans le temps jusqu'à l'époque où elle chopait encore des mecs.
Ah ouais.
Ça serait dingue.
Ah, ça serait fou. Hein. Europe 1.
Vous êtes sur le chemin du retour, vous avez récupéré les enfants à l'école, vous avez répondu à tous vos mails pro, vous croyez que tout va pour le mieux et pourtant dans quelques secondes vous allez réaliser subitement que vous avez totalement oublié de faire les courses pour le dîner de ce soir.
Ah non, de Dieu, de bordel de merde.
Inutile d'être vulgaire, notre expert gastronomique Olivier Pouls est là pour vous sauver la mise, à tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures à la frontière du divertissement et du journalisme en public le vendredi et en compagnie d'invités toujours prestigieux qu'avec Eva on sélectionne minutieusement. Précision aussi qu'on met un point d'honneur à toujours voir les films ou les spectacles de ceux qu'on reçoit. Et les rares fois où je n'ai pas pu voir le one-man show d'un humoriste, Eva me débrief juste avant l'émission. Ce qui est con, c'est évidemment quand elle dit du mal du spectacle et que l'invité arrive en studio avec 5 minutes d'avance.
Tu l'as vu le spectacle?
Oui.
Ah, c'est pas bien?
J'ai vu. Bonjour!
Bonjour! On l'embrasse, même si on ne sait pas qui c'est. Ce soir.
Oh merde!
Ce soir, c'est beaucoup moins gênant, puisqu'avec Eva, on a tous les deux beaucoup aimé. Ah non, on l'a vu et on a aimé. Une belle équipe qui sort mercredi prochain avec Kadmerad et Sabrina Ouazani, entre autres, puisqu'à l'affiche de cette comédie, il y a aussi Céline Salette, elle est exceptionnelle. Céline Salette, Alban Ivanov, Laure Calamy et bien d'autres, Eva. En tant que spectateur, on est souvent déçu d'apprendre que dans la vie, les comédiens ne s'entendent pas aussi bien, ils ne sont pas aussi potes qu'à l'écran. Est-ce que vous, vous êtes resté potes avec les gens du tournage? Est-ce que c'est des gens que vous voyez encore aujourd'hui?
Ouais, vraiment, on est resté la bande de nanas, là, on est resté assez proches. Là, nous, on était tout excités. Bah, on travaille beaucoup, Kat travaille beaucoup, donc on s'était peu vu depuis le tournage. Mais du coup, on est surexcités tellement on s'est manqué. La presse junket, c'était n'importe quoi. On sautait dans tous les sens. Moi, je me marre tout le temps. Et c'est un réel bonheur.
Kad, à partir de...
J'avais pas vu Quotidien hier, par exemple.
Si, ouais, c'est ça.
C'était un beau bordel.
Ah, bah voilà.
Mais
voilà.
Parce que tout le monde est content de se retrouver.
C'est ça.
Et que voilà, on est très, très, très. C'est des filles formidables, drôles et voilà, détendues.
Et la belle équipe 2
ça pourrait Une être belle équipe.
Une belle équipe
pas,
oui.
La belle équipe s'appelle Une belle équipe.
Tout est possible, bien sûr, mais bon.
Oui, parce qu'on peut pas dévoiler la fin du film, mais ça laisse une porte ouverte. Hein. Bref.
Ah oui, c'est vrai.
Ça laisse une porte ouverte. Oui, Mohamed Hamidi, il y a pensé certainement. Kad, à partir du 3 mars prochain, on vous retrouve au théâtre de la Michaudière. Vous mettez en scène Ami, une pièce écrite par Amanda Sterz et David Fuenquinos, dans laquelle vous jouez aux côtés de Claudia Tagbo et Lionel Abalance. Là, c'est l'homme de théâtre. C'est l'homme de théâtre.
Bon appétit, messieurs.
Une pièce sur l'amitié.
Sur l'amitié.
Et les dérives des applications de rencontre aussi, si je ne m'abuse.
C'est exactement ça. Vous voulez que je vous en parle un peu?
Sauf si vous pouvez ne rien en dire, comme le Baron Noir. C'est vous qui choisissez.
Déjà, c'est ma première mise en scène au théâtre, quand même. Donc, c'est important. Je réalise certains longs métrages.
Est-ce que le régisseur, quand vous êtes arrivé, de dire « Ah, Manitas de l'habitat
Non, pour l'instant, je viens déguisé, en fait, pour l'instant.
C'est mieux.
J'ai un masque. Non, mais c'est première mise en scène avec Claudia Tagbo, Lionel Abelansky, une pièce qui s'appelle « Ami ». Tout ce que vous l'avez dit, je vais le redire, hein, de toute façon.
Oui, mais vous le dites mieux. Amanda Sterz, le dites tellement mieux.
Effectivement, c'est une pièce sur l'amitié, mais c'est drôle.
C'est vrai une comédie.
Tout le monde connaît Mythique, évidemment, mais personne ne connaissait Amitique.
Amitique. Voilà.
Donc, effectivement, c'est la possibilité de rencontrer son meilleur ami.
Ah oui, voilà. Selon des critères, genre l'application vous dit quel est l'ami qu'il vous faut.
Et en fait, exactement. Et donc, je vois arriver Lionel Abelansky qui se prétend être mon meilleur ami.
Et vous êtes déçu.
Déçu, et surtout, on n'a rien à voir en commun. Mais ma femme, qui est jouée par Claudia Tagbo, l'adore, ce nouvel ami.
Ah merde.
Voilà, ça crée des situations très drôles et j'espère que vous viendrez nous voir, qu'on pourra en parler. Et
bien,
oui. Vous ne direz pas, non, j'ai vu la pièce hier. Ah bonjour.
Bonjour Cad,
comment ça va?
C'était super. Ils sont à l'affiche pour l'instant de la nouvelle comédie de Mohamed Hamidi qui sort mercredi prochain. Sabrina Ouazzenier, Cad Merad passe l'après-midi sur Europe 1. Perso, je passe un super moment. Tant que Cad, que je connais un peu dans la vie, ne révèle pas mon surnom.
Petite quéquette.
Bien, avançons. Mais...
Europe 1.
Biloute. Biloute.
Biloute aussi. Et au moment d'annoncer la prochaine rubrique, me revient en mémoire une citation. De tous les plaisirs qui s'offrent à l'homme, un seul rime avec nécessité, l'art parfois délicat de se sustenter.
Ah, Oscar Wilde.
Non, Maïté, la cuisine des mousquetaires. Chaque soir, notre expert gastronomique Olivier Poul, sorte de Maïté trash, nous livre une recette de dernière minute facile et goûteuse.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours l'équipe est sauvage du vendredi, l'émission qui chérit vos neurones, bichonne vos zygomatiques et trouve encore le temps d'exciter vos papilles. Et justement, en parlant d'excitation, voici quelqu'un qui risque bien de semer la zizanie dans le petit cœur de notre invitée Sabrina Ouazzani. En effet, entre eux, ça pourrait être le coup de foudre. D'une part, parce qu'ils partagent la même passion.
Sur la tête de ma mère, en touchant une de mes teufries, je m'occupe de Watt, ok?
Une violence que comprend parfaitement Olivier Pouls.
Les gens qui viennent vous piquer vos frites, moi je déteste ça.
Et puis, autre élément du coup de foudre, ils ont l'un et l'autre en commun un rire discret et distingué. J'ai déjà pris les alliances au cas où. Sabrina, je vous présente votre âme sœur, Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Enchanté.
Bonjour Sabrina, enchanté. Bah, je suis ravi d'être là. Donc...
Alors, ça c'est tout Pouls. Début de semaine, recette détox pour se remettre des excès des fêtes. Et aujourd'hui, même pas de recette, du pinard. Tout simplement, brut de décoffrage.
Je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir de boire un petit coup avec nous, ma chère Sabrina et mon cher Cad. En plus, je sais que... Vous, en tout cas, Kat, vous aimez le vin. C'est une passion.
Beaucoup. Ouais, voilà. Ouais, de plus en plus. Ouais, bah,
c'est qu'on dira ça quand même.
L'âge, voilà, là, elle est à force. Et puis, oui. J'aime les vins du monde entier. Je suis très curieux tout le temps. J'essaie toujours d'aller chercher des vins. Évidemment, il y a les classiques. Hein. Bien sûr, on a la chance d'avoir en France des vignobles magnifiques. Mais il y a plein de vins à découvrir. Et j'aime vraiment ça. J'essaie de...
Eh bien là, je vous ai, cette passion. Je vous ai apporté un vin que vous n'avez jamais bu.
Mais j'ai jamais le goûté. Voilà.
Vous ne l'avez jamais bu.
Et il est très bon. Décalé Qatar. Ohé, ohé. Décalé Qatar. Décalé Qatar. Ohé, ohé.
Il n'a rien perdu de sa superbe.
Voilà. Et en tout cas, il l'a bien dégusté.
Alors, non, attendez, je vais prendre de l'armichette. Non, c'est très bon.
Sauf à avoir vécu au début du XXe siècle, vous n'avez pas pu goûter ce vin.
Pourquoi ?
Parce que ce vin est une résurrection. Alors, je vais faire un tout petit peu d'histoire. Vous savez peut-être qu'à la fin du 19e siècle, une maladie terrible s'est abattue sur le vignoble français,
le phylloxéra,
qui a ravagé une grande partie du vignoble, pratiquement la totalité du vignoble. Et notamment, puisque là, on se balade dans le sud-ouest, le vignoble du sud-ouest et de la région de Cahors a été totalement décimé. Il faut savoir qu'à l'époque, le vignoble de Cahors était le pendant de Bordeaux. Il était aussi important et pratiquement aussi puissant. Malheureusement, la crise du phylloxéra a été terrible à Cahors, tout comme à Bordeaux, mais le vignoble n'a pas été reconstruit, en quelque sorte. On n'a pas replanté. Ça a mis beaucoup, beaucoup plus de temps. Et là, il y a deux passionnés que je salue parce que ce sont des gens formidables, qui s'appellent Claude et Lydia Bourguignon, qui sont des biologistes, des spécialistes du sol, qui ont vraiment dans le monde entier ausculté tous les sols, tous les terroirs pour voir de quoi il est fait, les matières organiques, la composition des sols, etc. Et ils sont tombés sur ce terroir à côté de Cahors, qui est un terroir dans un petit village qui s'appelle Laroque sur Arc. Et là-bas, ils ont constaté qu'un vignoble avait existé 130 ans auparavant et ils ont voulu le faire revivre. Alors c'est un vignoble qui était totalement vierge de tout produit chimique puisqu'il n'avait plus été travaillé, donc un terroir particulièrement intéressant. Ils ont replanté des cépages qui sont les cépages endémiques de l'appellation. Donc vous allez retrouver du Malbec, du Cabernet Franc, mais aussi du Prunelard et de la Négrette. Et c'est le premier millésime de ce vin, Laroque d'antan. C'est une cuvée qui s'appelle Nigrine. Et vous regoutez un terroir qui avait disparu.
C'est difficile de vous faire sentir ça par micro interposé, chers auditeurs, mais c'est vrai qu'il est très très bon.
C'est lui qui a gagné.
Vraiment,
c'est lui qui a gagné. C'est mon mon préféré. C'est mon frère. Je ramène. Je ramène de mon frère. Bon, alors,
tiens mon cercle. Voilà.
Et à la vôtre, ouais, mais toujours alors, avec modération.
Oui, alors, bah oui, mais ça, évidemment.
Et on le trouve où, ce vin, pour alors, les gens que ça intéresse?
Il y en a, évidemment, au domaine, donc la Roque d'Antan.
Il faut des lunettes 3D.
Il est en cours de distribution.
Voyez avec Alain Sirou.
Il y en a très peu de bouteilles. Ça vaut entre 25 et 30 euros. Ah, et ouais. C'est vraiment un projet qui est en devenir. Il y a, je crois, 5 hectares ou 6 hectares à l'heure actuelle.
C'est bon,
hein. Voilà, c'est absolument remarquable. Il n'a pas droit à l'appellation Cahors. Il est
parce que
le vignoble tel qu'il était redéfini au moment des appellations n'intègre pas cette appellation. Bon, hein. Et donc, il est tout simplement en indication géographique protégée, Côte du Lot. Mais ça n'empêche qu'il est remarquable. Bravo pour ce projet.
Bravo pour ce projet. Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Un terrible vague à l'âme s'empare de moi au moment de vous annoncer que l'émission touche à sa fin. Dans quelques instants, nous connaîtrons le vainqueur de l'équipe sauvage et nous prendrons congé de Sabrina, Wasani et Kad Merad, avec qui je serais bien resté un peu plus, mais c'est comme ça, ce sont des gens très pris. Au fait, Kad, vous faites quoi ce soir?
Je bois un couscous et je marie ma chatte.
Bah, le showbiz, quelle vie!
L'équipe sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
C'est les mains moites et le cœur gros que nous refermons une nouvelle édition de l'équipe sauvage. On a passé 2 heures merveilleuses, enchanteresses, avec Sabrina Wasani et Kad Merad, héros du nouveau film de Mohamed Amili, Une belle équipe qui sort mercredi prochain. L'histoire d'une équipe de foot masculine qui devient, par la force des choses, féminine. Et derrière l'humour, il y a évidemment un message d'égalité homme-femme qui, dans l'équipe, nous a tous touchés. Oui, Nicolas Caro?
Non, j'étais en train de me dire que déjà tous les 4 ans, on nous saoule avec les bleus. Et maintenant, s'il y a l'équipe féminine en plus l'année d'après, à chaque fois...
Eh bien, voilà une déclaration qui tombe à pic, puisqu'elle va permettre, Nicolas, nos invités, de trancher. Voilà, qui sera élu chroniqueur du jour, c'est la séquence du qui tout double. Nos 4 journalistes en compétition ont 10 secondes pour défendre leur cause. Alain Sirou, vous nous avez expliqué qu'on allait bientôt pouvoir voyager dans le temps, presque pour de bon. On n'a pas trop bien compris où. Pourquoi faudrait-il voter pour vous?
Parce qu'après avoir dégusté un terroir disparu et sans jouer les visiteurs, si je puis dire, j'imagine qu'un voyage dans notre passé doit exciter votre curiosité.
C'est bien dit. Emmanuel Dutheil, pourquoi voter pour vous? Oui, je vous ai cherché, mais parce que vous êtes tellement petit sur votre chaise, parce que vous aimez que... Il faut dire quelque chose, Emmanuel Dutheil veut toujours que ses pieds touchent le sol. C'est ça, c'est son exigence. Et donc,
c'est ma forme de révérence que je vous fais à chacune de mes émissions.
Pourquoi voter pour vous, Emmanuel?
Parce que je crois que c'était très intéressant, ce que je vous ai raconté. Que j'y ai mis du cœur, que j'y ai mis de la passion.
C'est vrai. On s'en fout un peu, mais c'était bien dit.
Exactement.
Raison de plus, c'est le meilleur des arguments, parce qu'on s'en fout et que j'ai réussi à vous intéresser. Ça mérite des points.
Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais ce ne sera pas vous, moi, pour moi.
Fred Goetti, pourquoi voter pour vous?
Mais en un temps record, je vous ai fait découvrir que Jimmy Page avait une vie avant Led Zeppelin, qu'il avait joué avec Johnny Hallyday. Je vous ai fait découvrir que David Bowie s'appelait David Jones.
Enfin, c'est vrai, beaucoup de choses.
Que demande le peuple, mes chers compatriotes? Vous votez pour moi.
Le peuple demande vous, Fred Goetti. Nicolas Caro s'est perdu d'avance, mais néanmoins, pourquoi voter pour vous?
Déjà, je vous ai conseillé 4 livres, c'est quand même très important dans une vie.
Mais est-ce que vous les avez lus?
L'espace d'une demi-seconde, je vous ai fait repenser à France-Allemagne 82.
C'est vrai.
Hein? Bon. Déjà,
ça va être difficile.
C'est un coup bas, mais c'est bien joué. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Alors, les auditeurs ont voté sur Twitter pour Alain Sirou.
Alain, je veux dire, les auditeurs votent toujours pour Alain Sirou. Oui. De toute façon, quoi qu'il raconte, il pourrait réciter le bottin, il voterait pour Alain Sirou. Nous étions en public aujourd'hui dans le studio Merlin.
Oui.
Quel est le vote du public,
très,
Eva?
Très serré, mais c'est pour Emmanuel Dutheil.
Merci, cher public. Bien joué. Oui, il s'est mis tout près du public et ça paye d'être près du public.
Oui.
Vous le savez, ici... Ah non, moi, je dois donner mon point aussi. J'allais presque m'oublier. C'est rare que je m'oublie quand on connaît mon ego. Et pourtant, je m'oubliais. Mon point aujourd'hui va à Emmanuel Dutheil.
Mais je vais faire ça maintenant. Je vais venir qu'une fois toutes les 3 semaines.
Et oui, ça vous réussit, en fait. Vous vous faites rare.
C'est ça.
Une Mylène Farmer, comme on dit dans le milieu.
C'est ça.
Vous le savez, ici, ce sont les invités qui ont le dernier mot. Sabrina Wasani, Kad Merad. Qui, selon vous, parmi les journalistes d'Europe 1, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
Alors, ils ont chacun 3 points, on est bien d'accord.
Ils ont chacun 3 points. C'est-à-dire que le championnat peut basculer.
C'est-à-dire qu'on qu'on doit donner à une personne.
Une personne, 3 points.
Moi, je les donne à Fred.
Fred Goetti, 3 points. Ouais,
moi, je suis désolé. Je vais peut-être faire ce que. On n'a pas le droit de faire ça. Moi,
Non.
Il faut choisir, Kad.
Nicolas.
C'est Nicolas Caron. Alors attendez.
comprends.
Il n'y a pas de gagnant.
C'est ce que je voulais. Ouais. C'est ça que je voulais, moi. On est tous égaux.
Nous avons trois égalités, mesdames et messieurs. C'est une première. On peut dire bravo à tout le monde, alors, aujourd'hui. C'était la 91e journée de l'équipe Sauvage. On remercie nos invités, Kadmerad et Sabrina Ouazani, à l'affiche mercredi prochain d'une belle équipe de Mohamed à midi. Merci également à mes journalistes, Eva Rock, Fred Goetti, Nicolas Caro, Alain Siroux, Emmanuel Duteil et le nouvel amant de Sabrina, Olivier Pouls. L'équipe Sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu et bonsoir à tous. Très bon week-end à toute votre équipe Sauvage. Demain dès 16h, les meilleurs moments de la semaine. Et lundi, vous recevrez une grande dame, Sandrine Bonner. Belle soirée à vous.
Europe 1, 18h-20h, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous sur Europe 1, ravi de vous retrouver pour 2 heures d'information, d'analyse, de débat. C'est votre grand journal du soir. Dans un instant, c'est l'information du jour avec vous, Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité ce soir, l'âge pivot va-t-il être retiré? La CFDT attend un geste. Réponse normalement avant ce soir du Premier ministre, encore qu'on n'a pas de certitude. On vous en parle dans un instant, dans le 18h, à 18h20 précisément, je recevrai le patron de Force Ouvrière, Yves Verrier, qui lui reste déterminé contre cette réforme. 18h30, le débat des grandes voix sur cette nouvelle journée marathon à Matignon. 19h10, c'est alors qu'Anne Hidalgo doit annoncer sa candidature à Paris. L'invité politique sera son challenger, Benjamin Griveaux, de La République En Marche. Enfin, 19h30, un grand monsieur, l'académicien et écrivain, Éric Orsenna, pour son tout dernier ouvrage. L'info qu'il vous faut, c'est sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir et c'est jusqu'à 20h.